Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Stéphanie de Bois-Rivoile, Jane Hanson qui est à mes côtés. Nous sommes bonsoir. Très heureuses de pouvoir vous accueillir ce soir, d'être présente ce soir pour présenter donc cet ouvrage Angelus qui a été écrit. Donc nous avons la chance d'avoir l'auteur présent ce soir. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de présenter ce livre dans plusieurs parties du monde. Plusieurs régions du monde, je l'ai présenté donc en Asie, puisque nous avions les copies chinoises qui étaient prêtes en tout premier lieu, puis en Angleterre, puis à Paris, puis à Saint-Émilion, et enfin nous terminons ici chez Mola, où ce livre est distribué, et c'est la première fois que j'ai la chance d'avoir l'auteur à mes côtés, donc je suis ravie, c'est un grand plaisir, et c'était pour nous un honneur pour notre famille, la famille de Bois de la Forêt, d'avoir Jane Hanson, qui est une écrivain et journaliste qui a une grande sensibilité, qui connaît très bien le vin, qui a pu, et qui, je vous parlais de cette sensibilité, qui a pu écrire cet ouvrage en respectant vraiment les valeurs et nos principes familiaux, tout en gardant bien sûr cette dimension autour du vin. C'était un exercice qui était difficile, elle vous en parlera, puisque Jane Hanson est est anglophone. Donc le livre a été écrit en anglais, puis a été traduit en français, puis traduit en chinois. Donc nous avons trois langues. Mais l'esprit de cet ouvrage, de cette écriture, est vraiment quelque chose qui nous a demandé beaucoup de temps pour que ça puisse être en phase avec le ressenti, la philosophie, l'esprit de la famille de Bois de la Forêt et l'esprit d'Angelus, bien sûr. Je suis, moi, la huitième génération de la famille de Bois de la Forêt. Je dirige la propriété aux côtés de mon père et de mon oncle depuis maintenant 4 ans. C'est une transition qui s'est opérée. Le livre, l'objet de cet ouvrage, c'était vraiment d'avoir un recueil de l'histoire de notre famille, de l'histoire d'Angelus. Une histoire qui commence en 1782 avec mon premier ancêtre qui s'installe à la propriété, qui s'installe à Saint-Émilion, qui s'appelle Jean de Bois de la Forêt, et qui, qui a transmis à sa fille, puis ensuite sa fille qui a elle-même transmis sur 8 générations, comme je vous l'indiquais, et c'est quelque chose d'assez rare et unique de pouvoir maintenir, de pouvoir préserver un vignoble. Alors bien sûr qu'en 1782, les enjeux, les contraintes, la superficie du vignoble n'avait rien de comparable à ce qu'on peut imaginer, à ce qu'on peut avoir aujourd'hui, puisque nous avions un peu moins de 3 hectares à l'époque, et qu'aujourd'hui c'est une propriété qui fait 39 hectares, la renommée du cru, enfin, tout était extrêmement différent, mais ce qui est absolument merveilleux, c'est d'avoir réussi à maintenir cette histoire, cette propriété, ces quelques lopins de terre dans la famille, et puis d'avoir pu bâtir une histoire au fil des 8 générations. Donc cet ouvrage, c'était vraiment l'occasion pour nous, lorsque nous avons demandé à Jane Hanson de bien vouloir nous faire l'amitié, la gentillesse d'écrire pour nous, l'occasion de rendre hommage à 8 générations, alors en tout cas au moins, on va dire, au moins 6, puisque la 7e et la 8e sont toujours très, très actives. Moi, je suis la 8e, donc je ne vais pas me rendre hommage, mais en tout cas, de rendre hommage aux générations passées et puis de louer finalement le travail et l'avenir en souhaitant une pérennité qui continue et qui s'opère donc sur notre propriété au château Angelus avec les générations donc à venir. Donc on regarde bien sûr tout ce qui touche au passé, qui nous intéresse beaucoup, le présent bien sûr, et puis on se projette dans l'avenir puisque c'est une histoire qui est une belle et longue histoire, et dont j'ai la charge, entre autres, de perpétuer, de pérenniser, puisque je considère que je suis un maillon de cette chaîne, je suis même dépositaire d'une histoire qui me précède et qui, je l'espère, me succédera encore longtemps. Il y a des problématiques de transmission qui sont extrêmement intéressantes, et qui sont intéressantes et en même temps qui sont inquiétantes. Donc ce sont des préoccupations qui nous animent au quotidien pour toujours nous tourner vers l'excellence en ayant en tête la pérennité et la perpétuité donc de ce domaine. Alors, ce livre on a pris beaucoup de temps pour arriver à achever, à accomplir ce livre, parce que nous avions beaucoup d'exigences, de nombreuses exigences, et que nous devions respecter, bien entendu, le point de vue de l'auteur. L'auteur qui a fait beaucoup, beaucoup de recherches, qui nous ont d'ailleurs été extrêmement précieuses, puisque nous avons découvert à travers ces recherches un certain nombre d'éléments sur notre famille, sur nos racines, l'arbre généalogique qui remonte un petit peu plus loin que ce que nous connaissions. On a fait des découvertes intéressantes. C'était l'occasion d'interroger, bien sûr, ma génération, la huitième, mais aussi la septième génération de mon père, de mon oncle, la génération de mon grand-père, qui est toujours en vie, qui a 94 ans, et de mon grand-oncle. Donc ce sont des moments émouvants pour nous, bien sûr. Je pense aussi pour Jane. En tout cas, de reconstituer cette histoire et d'avoir, à travers ce livre, un recueil d'histoires, bien sûr, de souvenirs, d'émotions, qui retracent l'esprit, la philosophie, d'Angélus et donc cette lignée familiale. Le livre donc a été écrit entre 2012
Oui,
et
et 2015,
2015,
vraiment,
voilà,
oui.
donc quasiment 3 ans. Et la date de le choix de la date de 2012 fait écho à plusieurs événements qui sont survenus. Je vous indiquais, donc je représente la huitième génération à la direction de la propriété. Je suis la troisième femme parmi les 8 générations à diriger, à incarner le domaine. Et là, le choix donc, de 2012, je suis arrivée en 2012 donc, à la propriété, donc il y avait un changement de génération, donc c'était quand même un élément important. Il y avait également des travaux, une rénovation spectaculaire, une rénovation en fait sans précédent, puisque je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de passer à la propriété, en tout cas je vous y invite grandement. Si ça n'est pas le cas, vous découvrirez un bâtiment qui reflète une architecture traditionnelle, dont je vais vous parler dans quelques instants. En tout cas, il y a eu des changements très importants, des travaux qui ont duré plus de 2 ans, qui ont été entrepris en 2012 et qui ont été achevés donc courant 2014. Et nous avons saisi l'occasion également d'écrire ce livre en parallèle avec cette rénovation qui se voulait vraiment tourner vers comment dire, une architecture vraiment traditionnelle et classique, puisque nous sommes situés à Saint-Émilion, à moins d'1 kilomètre du village de Saint-Émilion, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc il était important pour nous, à cet égard, de nous inscrire, de continuer à être en phase avec ce patrimoine mondial de l'UNESCO, enfin Saint-Émilion, donc classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça, c'était quelque chose qui était vraiment important pour nous, capital, et également compte tenu de l'histoire de ma famille, dont je vous ai parlé, qui a plus de 200 ans d'histoire, on a pensé qu'il était à propos d'avoir ce type d'architecture vraiment traditionnelle, et non pas une architecture moderne, contemporaine, que nous aimons par ailleurs, puisque nous avons d'autres propriétés et qui sont dans des styles architecturaux très différents, mais à cet endroit, compte tenu de l'histoire, il nous a paru important de nous orienter vers ce type d'architecture, donc que vous découvrirez et qu'il est donc possible de découvrir à travers le livre, à travers l'ouvrage. Et c'était donc l'occasion d'avoir bien de jolies photos, de jolis visuels de la propriété rénovée. Une propriété donc qui a été rénovée donc en plus de 2 ans avec le concours de compagnons, des compagnons, les journeymen, je me demandais comment, des compagnons donc du verre, compagnons du bois, compagnons de la pierre, compagnons du métal. Et donc l'ensemble Angélus, en fait, on peut dire un nouvel Angélus au niveau architectural, Angélus René, avec on dirait peut-être beaucoup de majesté ou de hauteur. On avait envie de donner de la hauteur au bâtiment puisque nous avions besoin à l'origine d'agrandir la propriété et nous avons décidé de limiter évidemment l'agrandissement au sol, puisque nous ne souhaitions pas arracher de vignes, ou en tout cas le moins possible. Donc on l'a fait plutôt en hauteur, donc pour gagner du volume, de l'espace. Et nous en avons profité pour embellir la propriété dans un style dont je vous parlais tout à l'heure, très traditionnel, avec, un esprit religieux, monacal, ecclésiastique, un peu spirituel, dont la pièce principale s'appelle, nous avons nommé cette pièce la nef, donc la nef d'Angélus, puisque c'est une, la charpente est une coque de bateau inversée et qui est assez majestueuse, qui fait penser à la charpente d'une chapelle, d'une petite église. Et j'aurais dû commencer par là, peut-être certains d'entre vous connaissent l'origine du nom Angélus, l'Angélus, qui est donc une prière catholique qui est célébrée 3 fois par jour, à 7h le matin, à midi et à 19h, qui marque donc le temps de travail dans la journée. Et le nom donc de l'Angélus, la prière l'Angélus, a été donné à un lopin de terre qui est une de nos parcelles, qui nous appartient toujours, mais aujourd'hui, c'est l'ensemble du vignoble qui s'appelle Angélus. C'était une parcelle qui est située sur le coteau. Ce coteau donc est encaissé dans un amphithéâtre naturel qui agit comme une caisse de résonance dans laquelle on peut entendre les églises, les 3 églises qui entourent la propriété, qui sonnent la prière, qui célèbrent la prière l'Angélus 3 fois par jour et qui simultanément donc sonnent, dont les cloches résonnent particulièrement à cet endroit. Donc cette parcelle, à l'origine, une parcelle de vigne s'appelait Clos l'Angélus, et le nom donc de l'Angélus a été plus tard étendu à l'ensemble du vignoble, donc pour donner le nom d'Angélus aujourd'hui. Voilà. Donc il y a un L apostrophe en moins, mais ça c'est un tout petit détail, puisque certaines personnes en établissant un classement alphabétique classent à l'apostrophe, alors qu'une apostrophe n'a jamais servi dans un classement, donc on l'a retiré tout simplement pour être à la place où nous devions apparaître. Voilà, je vais laisser Jane vous dire quelques mots, et puis okay. Je continuerai ensuite.
Ok, super, merci Stéphanie. Merci. Alors, je m'appelle Jane Hansen, je suis journaliste et écrivaine dans le vin. J'habite à Bordeaux depuis 2003, donc ça fait 13 ans maintenant. Et j'étais vraiment ravie d'écrire ce livre parce qu'il y a 4 ans, ou peut-être 5 ans maintenant, j'ai écrit un livre sur les grands crus, sur les premiers crus de 1855, qui s'appelait Elixir en français. J'ai écrit la même chose, j'ai écrit en anglais et c'était traduit en français. Mais c'était sur ces premiers crus du Médoc et du Rive Gauche. Donc c'était vraiment, vraiment fascinant pour moi d'apprendre sur la même chose, sur les premiers crus classés, mais de l'autre côté de Bordeaux, donc à Saint-Émilion. Donc ce que j'ai vraiment essayé de faire dans ce livre, et j'étais vraiment ravie que la famille m'avait donné la possibilité et le temps et l'espace de le faire, était de mettre Angélus dans son contexte, donc de vraiment voir l'histoire, comment on créait un vin aussi majestueux, aussi bon qu'Angélus, et comment on devenait un premier grand cru classé, qui est quelque chose qui est très rare. Il n'y a que 11 dans Bordeaux, 11 entièrement. Et c'était vraiment fascinant pour Angélus parce qu'on voit dans notre temps réel, dans notre histoire actuelle, comment un château vraiment, vraiment construit quelque chose qui va tenir dans le temps, dans les siècles qui viennent. Donc j'ai commencé de voir vraiment l'histoire de la famille. J'ai eu la grande chance d'aller dans une toute petite commune dans le Dordogne qui s'appelle le Pizu, où la famille de Bouard était il y a longtemps, donc avant la Révolution française. Aujourd'hui, il n'y a rien là-bas, vraiment juste une grande prairie. Mais à l'époque, c'était l'ancien domaine familial. Et j'ai rencontré le maire là-bas qui m'avait donné beaucoup des archives sur la famille avant la Révolution française. Donc j'ai vraiment plongé dans les archives pour faire ce livre, l'histoire de la famille bien sûr, mais aussi l'histoire de la création d'un domaine aussi grand qu'Angélus. Et ce qui était vraiment fascinant aussi, et que j'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire de Saint-Émilion. Comme Stéphanie a dit, Château Angélus est vraiment, vraiment ancré dans Saint-Emilion. Il est localisé à 1 kilomètre de vraiment hyper centre de ce belle ville médiévale. Et donc, j'ai fait pas mal de recherches aussi sur la viticulture dans Saint-Emilion elle-même. Dans le livre, vous allez découvrir comment le vin a été développé sur la rive droite de Bordeaux, qui est complètement différente que sur la rive gauche. Donc, c'est ça qu'il y a des choses très intéressantes à découvrir. Aussi, j'ai appris les choses comme... Je suis sûre que vous savez tous le Saint-Emilion. Il y a cette église monolithique.
Monolithe.
Merci, monolithe. Et là-bas, j'ai découvert que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des tresseaux d'art médiéval de la France qui étaient cachés dans cette église. La ville était... il y avait des soldats allemands qui étaient là dans Saint-Emilion. Et à 10 mètres sous le pied, il y avait des grands tresseaux d'art qui étaient cachés là-bas pour le protéger. Donc, il y a pas mal de jolies anecdotes sur cette histoire de Saint-Emilion pour vraiment voir que Angelus, c'est quelque chose grand et important pour Bordeaux. C'est un symbole de toute la richesse de la région. Donc, j'ai vraiment essayé de faire ce lien. Et comme Stéphanie a dit, on a eu la grande chance de faire ce livre en même temps qu'il y avait des travaux au château. Donc, j'ai essayé aussi de faire le lien entre la richesse de fabrication d'un grand vin et la richesse des autres métiers, architecture, les compagnons de la Tour de France. Donc, j'ai fait des interviews avec le monsieur qui avait fait la pierre, les fabuleux, la famille qui a fondé la grande cloche d'Angelus, qui est le grand symbole d'Angelus. Et donc, j'ai essayé d'intersperser le texte avec l'histoire de la famille et le richesse de ces métiers de travail, de vraiment le patrimoine de la France. Donc ça aussi, c'est de faire ce lien entre un grand vin et toutes les autres richesses que vous avez dans ce pays, dans que je suis juste un visiteur pendant ces derniers 13 ans, mais c'est vraiment une richesse que je constate chaque jour en France. Et pour moi, c'est ça qui est la grande richesse des vins de Bordeaux, qu'ils sont dans ce contexte historique depuis des siècles de la richesse de la France. Donc,
okay. Et je pense que ce que, pour compléter votre propos, Jane, c'est d'arriver à donner un contexte, le contexte avec les vins de la rive gauche, les vins de la rive droite, une histoire, et en fait à faire en sorte que à faire ressortir le fait que Angelus, la propriété, fait partie intégrante d'un paysage viticole, paysage de Saint-Emilion, mais qui s'inscrit donc dans la rive droite de Bordeaux et donc dans la région de Bordeaux, en reprenant l'histoire, puisque vous reprenez l'histoire depuis je crois que c'est la Révolution, même un peu avant la Révolution, puisqu'on parle de l'arrivée donc, de mon premier ancêtre, mais ensuite vous détaillez toute cette histoire à Saint-Emilion, les anecdotes, une anecdote que vous avez contée. Et ça nous permet vraiment de nous plonger dans l'univers d'Angelus depuis effectivement l'arrivée de mon premier ancêtre, mais aussi la création, le développement du domaine, et puis cette dimension bien sûr autour des vins. Donc je trouve que c'est assez intéressant puisque ça nous permet d'avoir cette perspective et de rentrer progressivement en fait dans l'univers d'Angelus. On parlait effectivement, je vous ai raconté, décrit rapidement le nom, l'origine du nom Angelus. Et le symbole, effectivement le symbole de la cloche qui est très fort pour nous, puisque c'est un symbole qu'on retrouve bien sûr sur l'étiquette de nos bouteilles, mais qu'on retrouve un petit peu partout dans la propriété, à la propriété. Et lors des travaux, donc des rénovations en 2012, nous avons décidé d'ériger un campanile dont Jane a rapidement parlé. Donc c'est un campanile qui regroupe 20 cloches, 18 petites cloches et 2 grosses cloches qui sont beaucoup plus volumineuses, dont l'une qui porte le nom, puisqu'elles ont un nom chacune, elles ont été baptisées, l'une qui porte le nom d'Angelus et l'une qui porte le nom d'Émilion. Émilion, donc, était un moine breton, donc là aussi il y a toute une histoire autour d'Émilion qui est arrivé de Vannes pour s'installer à Saint-Émilion, qui a fait des miracles en transformant le pain en bois, le bois en pain, et qu'il le donnait donc aux pauvres de Saint-Émilion. Donc pour, en hommage donc à ce moine, à cet ermite de Saint-Émilion, nous avons donné le nom d'une de nos cloches, son nom à une de nos cloches, et donc avec des parrains également. Le parrain donc de la cloche Émilion, les parrains sont mon grand-père et mon grand-oncle, qui sont donc tous les deux en vie. Les parrains de la cloche Angélus sont mon père et mon oncle. Et donc là aussi, nous avons fait le baptême des cloches, qui est une cérémonie traditionnelle dans la religion catholique. Et c'était un moment vraiment très émouvant. En plus, ce jour-là, donc l'archevêque de Bordeaux nous avait fait l'amitié de venir pour baptiser ces cloches. Et la cérémonie avait lieu à 11h le matin. Il y a eu du brouillard jusqu'à 11h15, 11h20. Donc on ne pouvait absolument rien voir. C'était un rideau de brouillard. Et puis lorsque l'archevêque est arrivé, un quart d'heure, 20 minutes après, c'était incroyable. Eh bien, le brouillard s'est dissipé. Et là, il a fait une journée, c'était au mois d'octobre, vers le 10, 15 octobre. Et là, c'était absolument merveilleux. Il n'y avait plus du tout de brouillard, un très grand soleil, et donc on voyait donc le campanile, les cloches qui étaient dévoilées. Donc la propriété n'était pas terminée, mais le campanile uniquement, donc qui était béni à ce moment-là. Et donc mon grand-père, mon grand-oncle, mon père, mon oncle, bon, moi-même j'étais présente, des amis qui étaient là aussi, des partenaires qui étaient présents. On a été là pour célébrer ce moment qui était extrêmement émouvant pour nous, avec ces cloches donc, qui ont été fondues effectivement à Annecy par la famille Paccard qui est également aujourd'hui...
La 8e génération.
Exactement. Oui. Nous avons la 8e génération, donc on a, je crois, qu'il y a 10 ans à peu près d'écart entre l'origine de la fondation de la maison Paccard et du domaine de Château Angélus. Donc ce sont des choses aussi qui rapprochent, qui nous animent, d'histoire de famille, de transmission. Et donc ces cloches sont gravées avec le nom des parrains, le nom de notre famille, le nom de la fonderie Paccard. Voilà, donc tout ce genre de choses s'inscrit dans notre histoire. Et je trouve très intéressant effectivement ce que vous disiez, Jane, au sujet du fait que le vin, c'est une chose, et notre principale préoccupation, en tout cas notre priorité, c'est de faire les plus grands vins possibles, donc de nous concentrer sur la qualité intrinsèque du vin, l'excellence du produit. Mais en l'espace de 8 générations, on a eu le temps d'aller au-delà et vraiment de donner une dimension tout autre. Une dimension historique, une dimension émotionnelle, une dimension affective. Et à tous ces égards, tous ces niveaux, nous souhaitons justement apporter quelque chose qui touche, qui confine donc à l'excellence au sommet. Que ce soit l'accueil quand des visiteurs viennent nous faire le plaisir de nous rendre visite, que ce soit dans l'image que vous pouvez avoir d'Angélus, que ce soit dans la distribution, la qualité de distribution de nos vins. Tout ce qui peut toucher à l'image d'Angélus, c'est pour nous quelque chose de très précieux. Et je prends donc le rôle qui m'est confié très à cœur, puisque quand on m'a dit, oh, vous êtes arrivé en 2012 et ça devait être, c'est bien pour vous, Château Angélus qui est au firmament, qui est premier grand cru classé A, les bâtiments qui sont rénovés, c'est superbe. Et je dis oui, je mesure absolument la chance que j'ai d'avoir la chance d'être née dans cette famille, la chance de pouvoir au quotidien être à la propriété dans un cadre absolument merveilleux, enchanteur. Mais je réalise surtout que je considère avoir plus de devoirs que de droits et qu'il m'appartient aujourd'hui de maintenir, alors on peut dire d'aller plus loin, mais avant d'aller plus loin, c'est de maintenir le niveau d'excellence, le niveau de qualité qui a été développé, qui a été bâti par toutes ces générations précédentes. Et donc, c'est un défi que j'accepte avec joie. Personne ne m'a forcé, mais ce sont des responsabilités extrêmement importantes. Et le fait est que ce que j'écris dans le livre, j'écris un texte à la fin où je me situe un peu entre vocation, la vocation et le sacerdoce. On est toujours dans cet esprit religieux, ecclésiastique. Parce que il faut être absolument passionné et dévoué pour pouvoir, reprendre le flambeau et continuer donc dans cette lignée, dans cette voie donc de l'excellence. Et quand on est, c'est ce que je dis souvent à nos équipes, quand on est à un niveau, quand on est au sommet, eh bien, c'est plus compliqué de demeurer au sommet plutôt que d'être un cran en dessous et puis eh bien, de ne jamais atteindre le sommet. Donc moi, je dis d'autant plus, je suis d'autant plus à l'aise que je n'ai aucun mérite, enfin, moi qui ai amené cette propriété au sommet. Par contre, il faut que je parvienne à maintenir ce niveau. Et je prends souvent d'ailleurs j'ai souvent l'analogie avec la gastronomie, d'ailleurs, dont nous avons avec lesquelles nous avons des synergies très fortes. Et nous avons d'ailleurs fait l'acquisition d'un restaurant à Saint-Émilion, le Logis de la Cadène, qui est le plus vieux restaurant de Saint-Émilion, fondé en 1848. Je dis souvent que finalement, quand on a 3 étoiles Michelin, c'est extrêmement compliqué de les garder. C'est peut-être plus compliqué d'avoir 3 étoiles Michelin, de les maintenir, plutôt que d'être à 2 et de ne jamais aller vers la 3e. Et tout ça, c'est une somme de détails qui sont parfois absolument méconnus, et à la rigueur, tant mieux, les gens n'ont pas besoin de l'extérieur de se rendre compte de tous ces détails, mais qui, dans leur totalité, vont pouvoir permettre donc de nous hisser à ce niveau. Et je pense que ça contribue à l'excellence et au savoir-vivre, à l'art de vivre à la française.
Et si vous me permettez, ça c'est une chose qui est vraiment fascinante avec Angelus, que cette construction vers l'exigence, vers l'excellence, était construite dans les 2 dernières générations. C'est vraiment la génération du père de Stéphanie et aussi son grand-père. Même les bâtiments, après la guerre, ils avaient beaucoup construit eux-mêmes avec leurs mains. Donc c'est vraiment, vraiment une histoire fascinante de voir la passion de cette famille pour le vin et aussi pour construire l'avenir de ce propriété. Donc c'est ça qui m'avait vraiment fascinée pendant ce recherche.
Il y a un aspect vraiment vous en parliez tout à l'heure, d'ancrage et d'attachement à nos terres, à nos vignes. Moi, j'étais encore ce matin avec mon grand-père qui me poser la question de savoir comment le millésime... Alors, il a goûté le millésime 2015 en primeur. Et il me dit, alors, comment est-ce que ça va se vendre? Donc, il est toujours à 94 ans, passionné. Il a confiance dans les générations suivantes. Donc, ce soit bien sûr la génération de mon père, qui a très largement démontré sa capacité. Mais même moi, ça fait seulement 4 ans que je suis là. Il a vraiment confiance. Il est transporté de joie. Il est heureux de se dire, eh bien... Je suis tranquille, je peux me retirer, même si il s'est retiré de la vie opérationnelle. Pour la dégustation, il est toujours très présent, mais sinon il s'est retiré de la vie opérationnelle depuis quand même, je dirais, une bonne quinzaine d'années, même s'il siégeait au conseil de surveillance. Maintenant il s'en est retiré et c'est quelqu'un qui est extrêmement apaisé et heureux du fait de se dire cette propriété continue, grandit. Et quand nous avons entrepris les travaux, je me souviens très bien, j'étais très émue. Il n'était pas tout à fait d'accord avec son frère, et lui-même était assez, sceptique, et même au début un peu opposé à l'idée de cette reconstruction, de cette rénovation, tout simplement parce qu'ils avaient eux-mêmes, ces deux frères, contribué de façon importante à des rénovations passées. On m'expliquait qu'avec ses propres mains, il avait posé des pierres. Et là, le fait de déconstruire en quelque sorte était quelque chose qui était compliqué pour eux. Donc on a beaucoup discuté en famille, et quand on leur a présenté la chose, c'était pour embellir, pour apporter quelque chose de mieux. Et lorsque il a vu le résultat, il me le dit encore de temps en temps, il regarde le bâtiment en me disant: C'est absolument merveilleux. Il me dit, si mon père voyait ça. Et donc, je trouve ça très touchant, parce que mon arrière-grand-père, que je n'ai jamais connu, est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime, dont on dresse aussi le portrait, dans la vie, une partie de sa vie, dans le livre, qui a une vie quand même très, très particulière, qui est un homme très courageux. Et donc, même sans connaître cette vie, j'ai beaucoup de respect pour cet homme. Et lorsque je vois mon grand-père qui est ému en pensant à son père, c'est quelque chose qui me transmet. Tout comme cette passion pour le vin qui m'est venue après la passion pour cette histoire, cette filiation, ce savoir-faire, cette transmission au sein de ma famille. Puisque lorsque moi je suis née à Bordeaux et j'ai grandi à Angélus. Donc je gambadais au milieu des vignes d'Angélus. Et dès l'âge de 5, 6, 7 ans, je manifestais auprès de mon grand-père et de mon père l'envie de faire partie plus tard. Et quand je serai grande, quand je serai adulte, j'aimerais bien être à vos côtés. Moi aussi, je voudrais continuer cette histoire. Et donc, quand vous avez 7 ans, on vous écoute avec un petit sourire attendri en se disant oui, bah, très bien, on verra, mais on en reparlera. Et donc, les choses se sont faites de telle sorte que lorsque j'ai dû choisir la voie de mes études, j'ai choisi plutôt le domaine de la finance tout en interrogeant mon père en me disant mais si je décide d'étudier dans le domaine de la finance, est-ce qu'il y aura une place? Parce que j'ai toujours l'intention d'occuper une place prépondérante, de diriger cette propriété. Mon père m'a encouragée dans ce choix. Donc j'ai fait des études pendant plus de, enfin, des études dans le domaine de la finance, mais je suis surtout partie à Londres pendant quasiment 6 ans, travailler dans le domaine de la finance. Et au bout de 5 ans, j'ai dit à mon père que j'étais prête, je me sentais prête à revenir. Il se trouve qu'à ce moment-là, il m'a dit que c'était un moment qui correspondait bien, puisque lui commençait à lever le pied. Et donc les choses se sont faites comme ça. Mais pour en revenir à mon propos, la passion pour la passion du vigneron, puisque ma famille est une famille de vignerons, est quelque chose qui m'a été transmis très tôt. Et je considère que c'est quelque chose qui est dans mes gènes, dans mon ADN. Et le goût pour le vin, la passion pour le vin est arrivée plus tardivement, puisque c'est vers l'âge de peut-être 17 ans que j'ai commencé à vraiment aimer le vin, même si mon palais a été formé beaucoup plus tôt, puisqu'on nous imposait, mes frères et moi, de goûter une gorgée de vin chaque dimanche, dès l'âge de 7 ans. Alors, on n'aimait pas vraiment ça, mais enfin bon, c'était une gorgée, donc le palais pouvait être éduqué assez tôt. Et c'est assez marrant de voir c'est tout à fait normal de ne pas aimer le vin, je pense, à l'âge de 7 ans. Mais en tout cas, de voir cette différence entre cet attachement très fort et très, très jeune à cette propriété, à cette famille, puis plus tard, bien sûr, qui est rejoint par la passion pour le vin. Et j'insiste sur cette notion de vigneron, puisque toute cette histoire qui est donc résumée, une partie de l'histoire qui est résumée à travers ce livre, résume assez bien une famille, on est bien une famille de vignerons. J'insiste là-dessus parce que de nombreuses propriétés, de nombreux domaines viticoles de premier plan qui produisent des vins absolument fantastiques sont la propriété d'investisseurs, de groupes financiers, de compagnies d'assurance, d'autres groupes qui n'appartiennent pas nécessairement à des familles ou bien qui peuvent appartenir à des individus qui ont, et tant mieux d'ailleurs, il n'y a aucun reproche, mais c'est un constat, qui ont d'autres activités, d'autres avoirs par ailleurs. Je vais dire n'importe quoi, ça va être la joaillerie, parfumerie, automobile, maroquinerie. Dans notre cas, c'est assez particulier, c'est que c'est le seul bien, et quand je dis seul, c'est pas du tout un reproche, mais c'est-à-dire que c'est une activité qui nous occupe au quotidien et c'est la seule activité. C'est pas un actif financier parmi d'autres, c'est notre activité. Et c'est en ça aussi que notre histoire est, je sais pas si elle est unique, mais en tout cas elle est assez rare, c'est que c'est une famille qui habite le domaine. C'est une famille qui est propriétaire de ce domaine depuis plus de 200 ans. C'est cette même famille qui dirige au quotidien ce vignoble avec un œnologue, qui est propriétaire œnologue, et avec donc une famille qui dirige. Donc c'est quelque chose qui est assez rare, avec surtout donc cette histoire, cette longévité dont je vous parlais, puisque l'histoire commence en Angélus avec notre famille en 1782. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Que ça m'a donné que c'est pas toujours facile. On voit ces grands châteaux et on a l'impression que pour eux c'est facile, que c'est une vie privilégiée bien sûr c'est vrai, mais de voir le combat pendant des siècles de créer de créer quelque chose à ce niveau. Je crois que c'est émouvant, c'est très émouvant et c'est tellement parti de Bordeaux, de ce région, qu'il y a autant de différentes familles qui avaient vraiment bataillé, qui avait vraiment essayé pendant des siècles de construire. Et donc, on pense aujourd'hui à Bordeaux, la plus grande région viticole du monde, que c'était toujours comme ça, mais ce n'est pas la réalité. C'est l'histoire des petites familles partout dans la région Bordeaux qui avaient eu un rêve et qui avaient construit, réalisé ce rêve. Donc, je crois que ça, c'était très émouvant pour moi, de vraiment voir ce mouvement pendant des siècles de construire le Bordeaux qu'on a aujourd'hui.
Absolument. Je pense que c'est important, effectivement, de soulever le fait qu'il y a une évolution, et je pense que vous êtes tous sensibles à ce genre de choses, que les vins que nous avons, la qualité des vins que nous avons aujourd'hui, ainsi que les moyens, alors des moyens, je parle de moyens, ça peut être des moyens financiers, humains, et des moyens techniques, et les connaissances surtout, avant toute chose, qui ont évolué de façon spectaculaire en l'espace de 30 ans. Lorsque je discute avec mon grand-père également de la façon dont il produisait les vins à l'époque et puis les moyens dont il disposait, ça n'a plus rien à voir. Tout simplement, on discutait d'une étiquette d'une bouteille de 53 qu'il avait la gentillesse de partager avec nous. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Et je lui disais, tiens, elle n'est pas parfaitement droite. Et il me disait, oui, tu sais qu'à l'époque, avec mon frère, nous collions chaque étiquette à la main avec le pinceau et un peu de colle. Alors qu'évidemment, aujourd'hui, ça nous paraît assez absurde de dire qu'il y avait une production de 200 000 bouteilles à l'époque, de faire 200 000 bouteilles à la main avec un petit peu de colle. Bon, voilà. Les choses ont beaucoup évolué. Ça, c'est un exemple, c'est une petite anecdote. Mais il y a énormément, et surtout dans la connaissance de la vigne, la connaissance de la vinification, de l'élevage des vins, énormément de choses qui ont progressé. Aujourd'hui, on fait les choses différemment. Et puis, d'un point de vue purement financier, il faut le dire aussi, il y a eu une progression très importante. Donc, les contraintes budgétaires, financières qu'avait mon grand-père à l'époque ne sont pas du tout celles que nous pouvons avoir aujourd'hui. Mais ce n'est pas le fruit du hasard, bien entendu. Il y a eu un travail colossal qui a été fait ces 30 dernières années, un travail sur la qualité du vin, la qualité donc, de la vinification, de la distribution, et également un travail sur la communication, puisque c'est important. Donc tout ça, effectivement, on peut dire que c'est une ère assez nouvelle qui s'est ouverte il y a une trentaine d'années, pas uniquement pour Château-Angélus, pour Bordeaux, mais peut-être que Château-Angélus, dans la famille, on a pu être pionnier sur certaines choses, à la fois dans la vigne,
et
à la fois dans les chais.
Et je dis qu'Angélus manifeste beaucoup de ces, dans les dernières décennies, ce qu'on a vu peut-être dans le 19e ou 18e, avec le Médoc, dans le 1855. Donc c'est vraiment fascinant de voir ça en création aujourd'hui, dans sept siècles.
Absolument. Et je pense que ce qui nous a toujours animés, motivés au sein de notre famille, c'est avant toute chose la passion. Vraiment, il faut être passionné pour continuer cette belle histoire. La passion, le partage, et le partage, parce que je m'arrête un instant sur le partage, le vin est quelque chose qui est fait, selon nous, pour être partagé, pour être apprécié, savouré, avec des amis, famille, compagnie agréable. Et c'est ce en quoi j'essaie de, enfin c'est ce que j'essaie de combattre quand je vois des fonds financiers avec une notion de spéculation. Donc bien entendu, nos vins se vendent à un prix qui est un prix très élevé. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est que nos vins puissent être ouverts, consommés et partagés, et d'avoir donc ce moment de joie, de bonheur en ouvrant ces bouteilles, en les partageant. Et c'est quelque chose auquel j'étais très sensible, notamment avec mon grand-père, qui est quelqu'un de généreux, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui nous permet de goûter des vieux châteaux Angélus, alors justement des 53, des 59, des 61. Et quand on ouvre ces bouteilles, on partage avec lui, bien sûr, le nectar, mais on partage avec lui de l'émotion, on partage de l'histoire, on voyage à travers l'histoire. Et c'est une dimension qui est extrêmement importante, qu'il ne faut pas négliger. Moi, je m'en rends compte à titre personnel lorsque je vais dans la Loire, dans le Rhône, en Champagne, en Bourgogne. J'aime beaucoup aller rendre visite aux autres vignerons, aux vignerons d'autres régions. Et lorsque le vin, le nectar, le produit intrinsèque, me transporte de joie, eh bien, si j'ai rencontré la personne, si je suis allée au domaine, cette relation émotionnelle affective va décupler, va permettre d'avoir un plaisir encore plus important que celui que j'avais en buvant simplement le vin. Et cette dimension est une dimension qui est très forte, je crois qu'il ne faut pas négliger. Donc le partage et tout ce qui est autour du vin, autour de l'histoire. Donc,
Thank
merci.
You.
Merci beaucoup.